Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde intitulée « Les espaces du genre » autour donc de plusieurs livres que j'ai eu l'honneur de diriger ou de co-diriger. Ils seront présentés alternativement par Maud Yastoma, à mes côtés, avec qui j'ai travaillé sur les cahiers de la transidentité. Elle les présentera mieux que moi et plus longuement. Et puis Yves Rébaud, qui reviendra sur la géographie des homophobies, livre que nous avons publié cet été. Alors j'aimerais bien introduire ce propos, d'abord en vous remerciant toutes et tous d'être là. Ouais. Donc je vais commencer par vous présenter une revue qu'on a lancée récemment, qui s'appelle la revue Miroir Miroir, qui s'est intéressée à une petite application, une application sur smartphone. C'est une application de géolocalisation, de rencontre pour homosexuels qui s'appelle Grindr. Ce qui nous a intéressé au fond dans cette application, c'est la monstration d'un espace à la fois anxiogène et érogène, c'est-à-dire aussi des espaces de visibilité acquises ou à conquérir, mais aussi des espaces d'invisibilité à même nos rues dans des monstrations ordinaires. Je vais insister, si vous me le permettez, sur la figure de la folle qui me semble excessivement utile à cet égard. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un parallèle avec ce qui s'est passé au mois de mai, à savoir le mariage pour tous. Le 18 mai 2013, alors que la loi concernant le mariage pour tous venait d'être promulguée, et tandis que ma page d'accueil Facebook se remplissait de statuts de joie, je n'étais pas certain de vouloir partager cette allégresse. C'est vrai, je suis rentré à reculons dans ce débat un peu mortifère où la famille devenait l'institution à défendre, pour les uns comme pour les autres. Cette privation des droits, au strict opposé d'un droit individuel, ne me séduit pas. Évidemment, il suffit qu'un seul ou qu'une seule d'entre nous veuille se marier pour qu'on le soutienne ou qu'on la soutienne. En ce sens, nos ennemis nous ont unis. Mais la joie de cette loi décrétée, je ne la partage pas vraiment. En réalité, je suis plutôt triste, triste que ce soit la peur qui ait signé les mobilisations, triste aussi qu'à un droit se substitue tant de frustrations. Quid de la PMA, de la GPA, de la question trans ou des prostituées. Bref, qu'en est-il de la libre disposition de son corps dont la réalisation s'effectue, en toute évidence, en dehors d'un état tutélaire et sécuritaire. C'est dire aussi que ce mouvement manque d'élan et la fatigue d'un combat qui aura pour effet collatéral de passer sous silence d'autres revendications, d'autres corps, non gays et non blancs. Augmenter des sécurités, réduire d'autres libertés après le mariage, rien, sinon la consécration du principe républicain d'indifférence aux différences, dont les folles, par exemple, sont les premières victimes. Mais qui est la folle? La folle, c'est le PD qu'on aime à exécrer. Lorsqu'elle ne nous fait pas rire, la folle nous fait honte. L'insolence folle a une économie restreinte, au-delà de laquelle les hilarités laissent place à l'opprobre. Mais la folle n'est pas que paillettes, humour et militance. Elle brille souvent par sa quotidienneté, dans les plis d'une existence toujours déjà marquée par l'épreuve d'une homophobie traversant un placard inlassablement fissuré. Pourtant, cette folle, qui marque et inspire avec son extravagance, avec ses déclarations, est une figure paroxystique d'une homosexualité contemporaine, tout à la fois intégrée et perpétuellement mise de côté. En ce sens, la folle est audacieuse, elle est courageuse, elle est irréductible. Dans un face-à-face avec les évidences d'une cisidentité intégrative, elle signe une singularité qui dérange. Il faut les voir, ses regards appuyés, se retourner avec insistance, décachetant une nouvelle fois la possibilité d'une insulte. Néanmoins, la folle est fière et déterminée. Elle initie les premières gay prides, décline ses talents dans l'arène meurtrière de la lutte contre l'homophobie ou bien du VIH, sous l'œil menaçant de la virilité incarnée dans les deux camps, aussi bien ses ennemis que ses alliés, ou ceux supposés l'être. La folle avait des rêves, encore a-t-elle des survivances. Elle s'en prend aux hétéros et parfois à ses congénères qui l'encensent, puis immédiatement l'oublient. Elle tient entre ses mains une histoire et une vitrine unique, celle de la mauvaise vie, celle de la mauvaise vie homosexuelle qu'on ne diffuse jamais à la télévision, sauf sous les traits d'un Michel Serrault. Entre la cage aux folles et le mariage pour tous, elle est censée trouver sa place. Certes, elle rêve d'une robe, d'une traîne, mais est-elle prête à troquer son à côté du genre pour une promesse d'assimilation ? En ces temps policés, on a besoin de la folle comme détonateur, et plus encore comme révélateur d'une assignation forte à un genre, peut-être même plus qu'à une sexualité. Révélateur aussi d'une certaine misogynie, chez les gays y compris. Cette beer drop où personne jamais ne va travloter. Alors devrions-nous peut-être extraire la folle de ce schéma mélodramatique dans lequel elle s'est elle-même enfermée parfois, et ainsi la faire glisser pleinement du côté de la politique, du côté public. Mais du politique inclusif, même pour les freaks. La folle vit la nuit mais se tarit le jour. Elle manque de réconfort. C'est pourquoi je lui écris ces mots à cette folle bigarrée, multiple et controversée, comme pour mieux figurer ces espaces du genre tout à la fois anxiogènes et érogènes. Car la folle n'est pas simplement cette figure au bout du rouleau, elle est l'incarnation des tensions de son temps, entre injonction à l'écriture de soi, à la présentation de soi, à l'augmentation tendancielle des droits des minorités et au maintien des discriminations à leur encontre. La folle pose urgemment la question de l'agenda militant homosexuel, celui de ses interfaces de visibilité, lequel agenda se courbe au plus offrant sous le poids des gages de normalité. Alors, aux côtés des folles, nous suggérons d'autres altérités, celles des travestis, des intersexes, des trans, des drags, king ou queer, des homosexuels, du monde de la nuit, comme autant d'entailles dans la convenance aux normes de genre. Stuart Hall écrivait dans Identité et culture, je cite, je crois que là, dehors, d'autres identités comptent. Je dois, poursuit-il, d'une manière ou d'une autre, m'y frotter. Cette nouvelle conception exige que nous commencions non seulement à parler le langage de la dispersion, mais également, conclut-il, celui des clôtures contingentes de l'articulation. Ce faisant, l'appréhension du genre par les homosexuels ou les trans s'articule non plus autour d'une logique de séparation solide des espaces, mais d'une logique de frottement, de multiplicité dans l'urbain. Les notions d'homophobie ou celles de transphobie sont alors soumises aux incertitudes, des lieux, des interactions, cependant qu'elles s'épaississent au contact des normes et des polices de genre. Pour analyser ce double mouvement, je vais donc laisser la parole à Maud Yustoma, qui reviendra sur les exemples trans et intersexe, au travers des cahiers de la transidentité que j'ai eu l'honneur de co-diriger à ses côtés, ainsi qu'aux côtés de Karine Espinera. Puis je laisserai la parole à Yves Rébeau pour revenir sur le livre de géographie que nous avons dirigé tous les deux. C'est encore pour moi l'occasion de les remercier de ces travaux à la fois engagés et bienveillant. Yves, c'est à toi.
Bien. Merci Arnaud pour cette introduction. Donc, peut-être le titre Géographie des homophobies intrigue. Que vient faire la géographie dans cette affaire ? Et en fait, il faut faire un petit retour sur la géographie féministe et la géographie du genre. Donc, les géographes bordelais sont très actifs au sein d'un réseau national et également en lien avec des géographes internationaux sur ces nouveaux courants de la géographie qui sont quand même pas si nouveaux que ça. Alors on peut dire qu'en géographie, il a fallu attendre les années 1980-90 pour que se développe une critique féministe de la géographie. Jusque-là, la géographie était masculine et androcentrée. Une géographie universelle, celle que vous comme moi nous avons appris dans notre enfance ou dans notre jeunesse, faite de cartes, de plans, de schémas, de tableaux, de photos représentant l'univers des hommes. L'idée que la géographie était aussi universelle que l'être humain s'exprimait dans un projet positiviste reposant sur la dualité femme-homme, ou plutôt homme-femme. Alors la critique féministe qui arrive dans les années 80 pose la question « Où sont les femmes ?» On ne les voit pas sur les cartes, on peut parler par exemple du Sahara pendant des heures entières d'émission sans voir une femme alors qu'il y a 3 millions de femmes qui vivent dans le Sahara. Et pourtant, dès qu'on s'interroge de la place des femmes, eh bien, on voit qu'elles sont dans l'espace public, elles y sont réellement, et que cet espace public est marqué par inégalité entre femmes et hommes dans l'accès au transport, au travail, au salaire. On voit qu'il y a immédiatement un espace des femmes, la maison, l'école, les commerces, la proximité, et puis un espace des hommes dans l'entreprise, dans les loisirs, dans les espaces publics, dans la politique. Il y a également un espace public qui est dangereux pour les femmes, spécifiquement, où elles représentent des proies potentielles. Donc cette critique féministe amène à se pencher alors sur les lieux où les femmes et les hommes se mélangent, lorsque les mœurs changent et que les lois les accompagnent. À l'université, les femmes et les hommes se mélangent, au travail, dans les rues marchandes, sur les plages. Ces lieux n'abolissent pas le genre, mais ils permettent une variation des rôles de genre, d'un bout d'une rue à une autre, entre banlieue et centre-ville, entre les villes et les plages, par exemple. Cette géographie du genre, hein, qui permet ces changements de rôle de genre, s'intéresse alors à d'autres lieux où s'expriment les marges. plage des quartiers gays, bar lesbien, mais aussi Gay Pride, devenu Marche des Fiertés, réseau associatif trans, sont autant de lieux qui apparaissent dans l'espace à partir du moment où on a fait cette sexuation, on a opéré cette sexuation des espaces. Alors le deuxième point sur lequel je voudrais, pour introduire l'ouvrage Géographie des homophilies, insister, c'est la question qu'on s'était posée de l'appeler Géographie des homosexualités ou Géographie des homophobies. Et en fait, il aurait fait l'appeler les deux à la fois, certainement. Alors, il est vrai que peu de personnes hétérosexuelles se reconnaissent dans la figure du skinhead homophobe qui va casser du PD à la sortie d'une boîte de nuit. Beaucoup plus nombreuses sont les personnes hétérosexistes. Elles sont convaincues que la relation sexuelle homme-femme est naturellement supérieure à toute autre. Elles trouvent que les rapports entre personnes de même sexe sont gênants, bizarres, improductifs, pathologiques. Les mêmes et d'autres sont hétéronormatives. Elles peuvent être persuadées, par exemple, que le couple hétérosexuel est normal et doit avoir l'exclusivité de l'élevage des enfants. Lors des manifs pour tous, on a entendu dire « on n'a rien contre les homosexuels, mais cela doit rester discret, dans la sphère du privé. On les accepte à condition qu'ils soient discrets. » Ou encore « les enfants élevés par les couples de même sexe risquent des carences affectives, des troubles. Ils manqueront des repères nécessaires pour construire leur identité. » Une des particularités de l'hétérosexisme est de considérer qu'il existe une majorité de personnes hétérosexuelles et qu'on ne va pas changer la loi ni les usages pour une minorité de personnes différentes. Peut-on dire que les gays et les lesbiennes sont une minorité ? Les bi, les trans, les intersexes font-ils partie de cette minorité ? Première question. Mais l'hétérosexualité ne regroupe-t-elle pas aussi de multiples pratiques sociales et préférences sexuelles, assumées ou cachées, légales ou illégales ? Les hétérosexuels sont-ils toujours de bons parents ? Quel rapport y a-t-il entre la sexualité d'un ou une hétérosexuelle et le fait d'être ou non un bon parent ? Ces questions qui mettent en abîme la question de la diversité sexuelle se retournent comme un gant dès lors qu'on pose l'hypothèse que l'hétérosexualité est une norme majoritaire qui s'impose avec plus ou moins de succès et ou de violence à l'ensemble du corps social. Éric Fassin dit que la minorité est une catégorie sociale naturalisée par la discrimination. On peut alors considérer que l'homophobie est une forme active, violente, incorporée, entre parenthèses phobie, est très largement répandue de discrimination des personnes LGBT ou soupçonnées de l'être, bien sûr. Il est donc difficile de distinguer la géographie des homosexualités et celle des homophobies. On peut considérer que les lieux LGBT n'existent que par l'exclusion. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires, chaleureux, innovants. Dans ces conditions aussi, la sortie du placard, coming out, est un acte spatial. Exemple, la Gay Pride, Marche des Fiertés. Dans la rue, le sexe devient politique, ce qu'avaient compris les premières féministes qui contestaient l'articulation entre espace public dominé par les hommes, hétérosexuels dominants, et une assignation à l'espace privé pour toutes les femmes. Pour le patriarcat, les homosexuels ne se reproduisant pas sont inutiles, donc condamnés au secret, à l'enfermement, à l'invisibilité. Marianne Blidon mesure les normes spatiales à partir d'un questionnaire. Où peut-on se tenir par la main, s'embrasser en public lorsqu'on est lesbienne ou gay ? Le mariage pour tous, en banalisant les unions homosexuelles et dans le même mouvement l'homosexualité et l'homoparentalité, provoque d'énormes hétéropride, un coming out des homophobes qui disent, affirment dans la rue, la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels, et qui amplifie, ce faisant, la place du genre dans le débat politique. Le livre est construit autour de ces interrogations. Il procède également d'une démarche méthodologique importante. Bien que publié dans une collection scientifique, il est composé en partie d'articles et d'entretiens avec des représentations associatives qui témoignent d'une expertise de terrain, homoparents, intersexes, trans. Donc ici, il y a trois auteurs de ce livre, parfois liés à une compétence universitaire. La littérature scientifique LGBT est composée pour l'instant aux 4/5 de travaux sur les gays, les plages gays, les quartiers gays, etc., ce qui reflète bien la domination masculine sur le sujet. Place donc est faite, comme pour la marge des fiertés, aux lesbiennes et aux trans en traite du livre, et toutes les composantes arc-en-ciel sont évoquées, y compris dans des nuances telles que le mouvement des folles ou les lieux queer. Donc dans ce livre, eh bien, on peut voir un certain nombre d'articles collectés autour des lieux publics lesbiens, des articles de Anne-Claire Val et Pauline Brunner, qui montrent comment les lieux lesbiens, les bars et cafés lesbiens ont du mal à tenir dans l'espace, alors que les quartiers gays sont majoritairement occupés par les commerces gays. Également un article sur les lesbiennes migrantes dans la ville où Salima Marie montre la double peine qui repose sur les filles issues d'immigration lesbiennes. Un article de Arnaud Alessandrin, Karine Espinera sur la visibilité, quelle visibilité pour les trans, et qui pose la question aussi de la mise en espace des trans, dont parlera, je pense, Modius Thomas tout à l'heure. Un article également sur les espaces queer. Un long entretien de Maxime Servulle sur l'homonationalisme, où il revient sur cette phrase de Marine Le Pen, il ne fait pas bon vivre dans les quartiers pour les femmes et les homosexuels, qui récupère finalement la question du féminisme et la question homosexuelle au profit de l'islamophobie, hein, en montrant, en désignant finalement de nouveaux espaces de discrimination. Hein. Un travail sur les espaces, les plages gays par Emmanuel Joran, qui fait en contrepoint un entretien de Raquel Eborgui, intervient. S'il existe des plages gays, existe-t-il des plages lesbiennes? Bonne question. La réponse est non, ou si un petit peu, quelques plages militantes. Mais plus généralement, on voit bien que cet espace d'expression et de construction d'identité pour les garçons gays, eh bien, n'a pas l'équivalent sur les plages tout à fait pour les lesbiennes. Un article également sur des articles sur les conjugalités et parentalités LGBT. Donc Stéphane Leroy nous fait un article sur la géographie du PACS en essayant de voir dans quelle région il y a le plus grand nombre de PACS entre personnes du même sexe. Et il montre bien le caractère urbain, et puis également certaines zones comme la Côte d'Azur sont des lieux qui ont tendance à regrouper dans le cadre d'une gentrification bien des quartiers où se retrouvent les gays et les lesbiennes, qui donnent une indication spatiale. Nicolas Gouguin, bien connu par les gens qui appartiennent à des associations LGBT, puisqu'il en est le coordinateur, parle de la marche des fiertés et des militances gays. Il y a cet entretien qu'a fait Arnaud Alessandrin avec Jean-Yves Le Talec de Toulouse sur l'espace des folles. Et ensuite, un long entretien, en fait, qui est quasiment un article, de Vincent Guyot et Yannick Bastien-Charlebois. Vincent Guyot français, Yannick Bastien-Charlebois québécois, sur les intersexes, la structuration, l'organisation des intersexes. Et là encore, toujours les mêmes questions que nous avons posées sur la sortie du placard, l'outing, et également les espaces, et quels étaient les lieux, hein, quelles étaient les circulations de ces personnes qui étaient l'objet, à un moment ou à un autre, d'une discrimination, et qui construisaient leur identité dans cette discrimination. Donc, voilà un petit peu sur cet ouvrage patchwork, mais assez complet, dans lequel, à chaque fois, on a essayé de garder la question spatiale, hein, pour essayer d'imaginer comment l'espace, à la fois, construit ces différences entre les sexes, entre tous les sexes, et puis également comment eh bien, cet espace est utilisé, approprié pour des constructions identitaires et de façon à créer des minimums de vivre ensemble entre des personnes qui sont marquées par la différence, par la norme hétérosexuelle dominante.
Merci Yves. Mode, c'est à toi.
Alors, je vais rapidement vous présenter ces deux sujets, le sujet trans et intersexe. Donc, deux définitions succinctes pour commencer et encadrer ces deux sujets. Alors, sur le transsexualisme, caractérise un sujet qui s'identifie au sexe opposé malgré une conformation physiologique normale. Le sujet intersexe, caractérisé par une pathologie physiologique consistant dans la présence de parties des deux sexes dans un même corps. On voit simplement que ces deux sujets sont opposés dans cette définition sexuée et sont noués avec la conformation sexuée. D'un côté, on nous dit une conformation physiologique normale. De l'autre côté, on nous parle de pathologie physiologique sur laquelle il faut intervenir. Alors, cette conformation sexuée consiste en Occident à donner le juste rapport d'une assignation sexe-genre à la naissance d'un enfant. Et on a donc là une indication très forte de comment on définit un individu socialement et juridiquement, et par là ce qu'est un homme, une femme. Cette définition par un corps sexe en société vient justifier sur le fond la prise en charge de l'abord du sexe de ces deux sujets dans le champ médical, ce qui a pour conséquence de devoir faire intervenir aussi le champ juridique, qui lui donnerait un genre. Donc au fond, le champ médical donnerait un sexe à ces corps-là, des corps trans et des corps intersexes, et le champ juridique lui donnerait un genre après coup. Donc on a là en fait deux opérations de transition. Alors, ces définitions par une conformation sexuée sont largement fausses, réduisant la condition humaine à une mécanique des fluides sexuels pour la procréation et elle seule. Et surtout, pour justifier éthiquement cet interventionnisme, on a un recours à un fort discours de psychiatrie. Alors, l'un des motifs principaux de la figure trans est le changement de sexe. Quid de la figure intersexe ? Est-ce que le chirurgien procède de même à un changement de sexe sur le corps intersexe ? On a là une fabrique d'individus hybrides consistant à construire des filles et des garçons, des hommes et des femmes, ce qui, à contrario, réaffirme des corps naturels. Alors, ce qui caractérise toujours le fait trans, c'est précisément la prégnance de la psychiatrie qui définit le sujet trans, dit ce qu'est le transsexualisme, qui l'est, comment on l'est, pourquoi on est trans au lieu de non-trans, donc on est encore dans la binarité sociale, qui sont-ils et elles dans la société, combien sont-ils, où sont-ils, est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, peuvent-ils rester dans leur famille, etc., etc. Donc il y a énormément de questions sur lesquelles il n'y a jamais eu de réponse. Jamais. Là, la sociologie était jusqu'à présent totalement muette. Seul le discours psy se faisait entendre pour répondre à ces questions et imposer ses réponses. Donc la prise en charge en France du transsexualisme débute en 1979, alors que ce même champ sexologique, médical, psychiatrique le théorise depuis la fin du 19e siècle, sous le nom de troisième sexe, autre figure que probablement vous connaissez quand même un peu. Très vite, des associations vont se monter, fusionner au moment de la pandémie du sida, donc courant des années de la décennie 80 et 90, avec d'autres associations de soutien et se politiser face à l'homophobie et ce qui apparaît comme la transphobie. Là, les associations trans apparaissent enfin dans l'espace public, d'abord rarement, puis plus souvent, et prennent la parole dans l'espace public. Donc c'est à ce moment-là que des gens commencent à voir des personnes trans, à voir à quoi ils ressemblent, et pas simplement tel que la télévision nous montre des trans. Dans la période de 1990-2000, les associations trans puis intersexes se politisent ensemble et renouvellent le discours. Vient le moment de la théorisation où on reprend point par point ce qui a composé le paysage trans et intersexe. Donc, le numéro 1 des cahiers, c'est sur la dépathologisation, donc cette dépsychiatrisation de leurs identités, et c'est donc en même temps qu'une reformulation des discours, des pratiques et des analyses à manifeste politique et social. Les trans se renomment en parlant de transidentitaires, en déplaçant la question trans et la question intersexe du corps individuel, plus exactement du sexe de ce corps individuel dans l'espace public des relations. On sort du champ médical pour exister en tant que personne lambda, ordinaire, avec des espoirs, des envies, des droits. De même pour le numéro 2 sur la question intersexe. Voilà. Donc là, on est bien dans la rue ordinaire de notre quotidienneté qui génère cette socialité ordinaire. Donc là, on n'est plus dans la figure de la folle qui est montrée, qui est désignée, qui parfois fait rire. Arnaud a cité la cage aux folles. Là, c'est l'ouverture précisément de la cage. Et là, précisément, dans cette redéfinition des trans et des intersexes par eux-mêmes, dans l'espace public, dans l'espace politique, eh bien là, l'individu que nous, moi-même, pourrions identifier comme une folle, un homosexuel efféminé, eh bien, vous reposez la question, bah peut-être que c'est une personne trans ou intersexe. Et d'un seul coup, ce n'est plus le même regard, ce n'est plus les mêmes mots. Donc là, on n'est plus du tout dans le champ social, on est dans le champ ordinaire, la rue ordinaire. Alors, ce que nous voulions mettre en relief dans ces ouvrages et tous les trois, c'est que dans cette tension entre l'érogène et l'anxiogène de la rue, de la norme, il manquera toujours l'espace quotidien de la socialisation ordinaire. Le fait de passer dans la rue pour aller d'un endroit protégé à un autre, et l'on rejoint là la désignation cruelle de Céline, descendre dans la rue, ce petit suicide.
Merci beaucoup Maud, merci Yves. J'aurais une question à vous poser à tous les deux. Yves d'abord, à la lecture de Triste Tropique, il y a cette phrase de Lévi-Strauss qui dit, en décrivant un village dans lequel il arrive, « Il n'y avait que des femmes, il ne s'y passait rien ». Est-ce que faire une géographie de l'homophobie, ce n'est pas justement ça, c'est-à-dire sortir du neutre, ou pour reprendre ton expression, est-ce qu'une géographie de l'homophobie ou des homophobies, ce n'est pas aussi une abrogation du privilège mâle et hétérosexuel ?
Oui, alors en fait, Lévi-Strauss, quand il est arrivé en Amérique du Sud, toujours dans Triste Tropique, l'ambassadeur du Brésil lui avait dit que ce n'était pas la peine qu'il travaille sur les Indiens parce qu'il n'y en avait plus non plus. Donc je crois que ça fait partie aussi des tristes travaux aussi qui ne cherchent pas finalement, comme le dit Michel Foucault, ce qui est si important et si invisible qu'il est juste à notre porte. Donc là, le thème que tu me proposes de traiter, enfin la question que tu me poses, c'est rejoindre les régimes de visibilité et invisibilité. Et donc les régimes de visibilité et invisibilité font que dans l'espace public, mais aussi dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, il y a des gens qui sont super visibles et d'autres qui sont totalement invisibles, qui sont passés sous silence. Alors ces régimes de visibilité et invisibilité sont également des régime de visibilisation et d'invisibilisation. Donc à partir du moment où on invisibilise, certaines personnes sont invisibilisées. On ne doit pas les voir dans certains espaces. Hein. Par exemple, la question des plages, hein, et là je rebondis sur ce que disait Modius Thomas sur les rues, la question des plages est intéressante. Dans le travail que tu as fait sur les UEH, c'est-à-dire les universités d'été, hein, où se retrouvent les différentes composantes du mouvement LGBT, bien, il y avait cette ouverture vers la plage, l'entre-soi de la plage, qui permettait pour certains, et notamment pour les trans qui sont peu familiers de la plage, de découvrir le bonheur d'être sur une plage où on est en général soit totalement invisible, soit indésirable, dans la mesure où on a un corps qui ne correspond pas aux normes. Hein. Donc là, on voit bien que ces régimes de visibilité et d'invisibilité, eh bien, sont prescriptifs et ils font que, effectivement, comme tu le dis, ils affirment aussi ce privilège hétérosexuel qui fait qu'une certaine forme d'hétérosexualité, d'autant plus si elle est blanche et masculine ou blanche et féminine, correspondant standard, eh bien, a tout l'espace de la visibilité et tout l'espace de la circulation. Et qu'au fur et à mesure que des discriminations s'attachent aux personnes, mais on peut aussi trouver d'autres types de discriminations, eh bien, cet espace se rétrécit jusqu'à arriver à avoir une faible citoyenneté dans la ville. Donc là aussi, c'est dans les travaux que vous faites les uns et les autres, eh bien, on voit que certaines catégories sont très fragiles dans la ville, mais s'exposent peu dans des rues hein, où il y a des risques d'agression, où il y a le regard persistant hein, qui exclut l'espace public. Voilà. Donc évidemment, la réponse, c'est peut-être la perspective, l'horizon, hein, c'est d'avoir une ville pour tous, où effectivement, ces régimes de visibilité et d'invisibilité disparaissent au profit d'une consommation de la ville par tous.
Merci Yves. Maud, à t'entendre et pour rebondir en tout cas sur ce que vient de dire Yves, j'ai en tête l'article de Vincent Guillot dans Géographie des homophobies qui nous dit que la géographie de l'intersexe, c'est aussi une géographie de l'invisible. Au fond, ce qu'il nous dit, c'est que écrire une géographie du mouvement intersexe, c'est déplacer le débat du secret de la famille, du secret du cabinet, à l'ouverture du droit. Est-ce qu'on pourrait pas revenir deux minutes, ou est-ce que tu pourrais pas revenir deux minutes sur l'événement qui a lieu mercredi, à savoir le TIDOR, le jour du souvenir trans, puisque l'on oublie souvent que parmi les victimes des homophobies, il y a aussi des victimes de la transphobie, et donc aussi des morts.
Avant de répondre sur la question du TIDOR, je vais revenir très brièvement sur la question intersexe pour que vous compreniez bien. Puisqu'il était question justement de ce régime d'invisibilité. Alors, selon les disciplines convoquées par le champ médical, donc l'endocrinologie, la psychanalyse, la psychiatrie, la chirurgie, etc., ou tout simplement la médecine générale avec la gynécologie, on a des chiffres qui vont d'un tout petit pourcentage de la population, 0,1% de la population, à un chiffre qui est beaucoup plus important. Alors, est désigné personne, ou plutôt corps intersexe, hein, bien, plutôt corps intersexe que personne intersexe, en tout cas dans le régime binaire de l'Occident, un corps dont on constate qu'il a des parties des deux sexes, voilà, au moment de la naissance. Et là, la décision du médecin consiste à dire, au fond, à persuader les parents de les laisser opérer leur enfant, parce qu'il ne pourra pas se développer comme ça, mais sans préciser pourquoi il ne pourra pas se développer comme ça, ce qui pose la question, précisément, non pas des espaces dans lesquels les enfants intersexes pourraient se développer, mais précisément l'absence d'espace dans lequel ils pourraient se développer, donc ce qui pose la question de est-ce qu'il y a un développement qui serait spécifique à la question intersexe. Eh bien, comme il y a un grand nombre de types d'intersexuation, il y a l'intersexuation corporelle, physiologique, qu'on voit tout de suite, il y a l'intersexuation hormonale, il y a l'intersexuation chromosomique, puis ensuite il y a d'autres types d'intersexuation croisées, par exemple deux types d'intersexuation en même temps, qui elles sont beaucoup plus discrètes, qu'on ne détecte qu'à des moments particuliers, quand par exemple la personne est opérée, qui a fait un karyotype chromosomique, etc. Et il y a encore d'autres types d'intersexuation du corps que la personne ne détectera jamais. Donc là, on passe d'un petit 0, voire 0,001% de la population, avec un chiffre maximum qui a été donné par des études conjointes en Suisse, en Allemagne et au Québec, où il y aurait une naissance sur 600 qui est intersexe. Ce qui monte la population des personnes intersexes à plusieurs millions dans toutes les civilisations. Et là, on se prend à se demander, mais par quel miracle ce régime d'invisibilisation a permis qu'on continue à justifier, en Occident et ailleurs, l'hormonation et l'opération de ces enfants sans aucun consentement d'aucune sorte. Voilà. Alors, sur ce qui remet un peu les pendules à l'heure concernant non seulement cette fois les personnes intersexes, et plus simplement des corps intersexes, et ensuite l'absence totale de débat. Qui décide qu'on doit, qu'on peut, qu'on peut pas? Le Québec et la Suisse ont instauré un moratoire récemment parce que quantité de personnes intersexes ont été réassignées chirurgicalement dans le mauvais genre. Si bien qu'à l'âge adulte, ces personnes-là se retrouvent dans la situation des personnes transsexes à devoir faire une nouvelle transition encore dans le champ médical et encore dans le champ juridique. Et cette fois, à cette nouvelle transition, se surajoute la psychiatrisation. Puisque ces enfants ont été réassignés à la naissance correctement selon le médecin, pourquoi ces individus à l'âge adulte redemandent une nouvelle transition? Sans compter des gens qui non contents de demander une nouvelle transition, veulent recouvrir un corps intersexe. Je crois que c'est dans le numéro 2, identité intersexe, Charlotte nous dit, à presque 60 ans, j'ai plus ou moins bien vécu, je me suis mariée, j'ai fait des enfants. Oui, les intersexes peuvent faire des enfants. Donc, autre secret qui tombe. Et je veux recouvrir mon corps intersexe parce que c'est là où je fonctionne le mieux et de préférence dans le genre entre féminin et mixte. Nous, on appelle ça une identité intergenre. Eh bien, elle se retrouve confrontée à un psychiatre qui le prend avec ses travestis, ses transsexuels, ses transgenres et qui lui dit c'est bizarre là, votre affaire, là, vous avez été assigné correctement. Sauf qu'on ne lui a pas demandé son avis. Vous voyez bien là que le régime de l'invisibilité, il sort quand même on n'est plus dans la démocratie, là. On est dans une espèce d'interventionnisme qu'on ne sait pas très bien qualifier, sauf à dire qu'on est dans un espace des discriminations qui est aussi un espace des manques, des absences. Gilles Deleuze et Félix Guattari parlaient de ce peuple qui manque. Eh bien, le voilà maintenant. Ce peuple qui manque, qui est en débat, qui monte politiquement, socialement, culturellement, qui se renomme, les intersexes eux-mêmes se renomment, les trans se renomment transidentitaires pour signifier que non seulement la question qui a été formulée à leur propos, les définitions qui en ont été données, je vous ai parlé d'un sexe opposé au genre ou d'une pathologie physiologique, eh bien les personnes intersexes et trans se renomment. Et en écoutant Yves, brusquement, je me suis demandé, mais elles sont où les plages hétérosexuelles ? Nous ne nous nommons pas des plages du nom de plages hétérosexuelles. Pensez-vous que cette rue ordinaire que vous avez empruntée pour venir ici est une rue hétérosexuelle ? Qui dirait une telle chose ? Voilà. Alors, j'ai oublié le Tidor. Donc, c'est un moment politique qui nous vient des États-Unis. Ça veut dire Transgender Day. Ça se déroule depuis 17 ans, il me semble. Tous les 20 novembre, donc c'est dans quelques jours, je vais participer à cette manifestation à Marseille. Et c'est un hommage et un manifeste social, politique, culturel sur les meurtres des personnes trans. Et malheureusement, dans tous les pays et surtout très précisément dans les sociétés patriarcales, eh bien le nombre des personnes trans qui peuvent être aussi des personnes intersexes, puisque je vous ai expliqué qu'elles aussi sont en transition, avec des corps qui souvent ne correspondent pas à la norme, eh bien ce jour-là tente à rappeler politiquement la présence de ces personnes qui ne sont pas des minorités, mais qui sont des personnes dans le même espace social et politique que vous. Voilà.
Merci Maud, merci Yves. On va donc se quitter sur ces mots, en concluant peut-être d'abord en vous remerciant, en remerciant la librairie Mola, et puis en soulignant que ce qui nous interpelle à toutes les trois, c'est le fait, plus qu'être reconnu dans les particularités de nos identités, peut-être qu'il s'agit aujourd'hui de questionner, comme le dirait Fraser, le principe de participation qui permet à tout un chacun et à toute une chacune d'avoir une vie vivable. On vous souhaite une bonne soirée et on vous remercie infiniment pour votre écoute.